L'aventurier du jour, c'est Marc Aupoint, un artiste qui s'est lancé à l'assaut du Kilimandjaro pour réaliser un exploit unique, enregistrer le tout premier concert caritatif à près de 6000 mètres d'altitude.
La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com.
Salut Marco!
Coucou Florent!
Merci d'être avec nous, ça y est, tu es de retour de ton Kilimandjaro.
Ça y est.
Ça s'est passé comment? Le contexte de cette aventure et ce premier concert caritatif à près de 6000 mètres d'altitude?
C'était quelque chose que j'ai partagé avec mes... on était trois dans cette aventure, enfin on était quatre, pardon. J'étais avec Orso Chitoshin, qui est le directeur général de Mécénat Chirurgie Cardiaque. J'étais avec Vincent Inigo, qui était à la caméra et qui est en train de réaliser un documentaire autour de cette ascension. Et j'étais avec Cédric Zakia de l'Atelier Duo, qui est un droniste. Et à tous les quatre, on est partis à l'assaut du Kilimandjaro pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Alors le défi, c'était 6000 enfants sauvés, en tout cas le 6000e enfant sauvé pour les 30 ans de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et pourquoi l'association allait sur le Kilimandjaro? Eh bien parce que 95% des enfants qui sont pris en charge par cet asso sont originaires d'Afrique.
Exactement. Alors cet objectif, bon, c'est évidemment c'est quelque chose d'assez impressionnant parce que ça voilà, 6000 enfants. Alors il faut se dire déjà que l'association a déjà sauvé plus de 5000 enfants, ce qui est complètement fou et énorme. Ils font un travail colossal parce que voilà, ça arrive pas tout seul. J'avais proposé à Orso et à Mécénat, je leur avais dit voilà que moi j'avais ce projet de monter le Kilimandjaro, que j'avais envie de monter avec mon piano pour composer, pour écrire de la musique. Et puis j'avais envie de donner un sens à cette ascension, quelque chose de plus profond. Et je leur ai proposé cette idée de monter le Kilimandjaro. Et Orso m'a tout de suite dit mais oui, c'est un projet qui fait sens avec notre association. Et on s'est dit ben on va s'allier, on va allier nos forces. Ouais. Et puis on va se donner le même but, hisser les couleurs de Mécénat, monter le cœur de Mécénat en haut du Kilimandjaro et faire briller ce cœur pour que les gens puissent eux aussi participer à cette ascension, participer à cet objectif de sauver le 6000e enfant pour les 30 ans de l'association.
Alors Marco, toi t'es pianiste, t'es compositeur, je crois que t'as 27, bientôt 28 ans, ou peut-être déjà 28 d'ailleurs.
Non, exactement, j'ai encore 27.
Ah ok. Passionné 28. Par la musique classique, le jazz, par les sonorités latino-américaines, et t'as fait des super collaborations parmi les collaborations Gilberto Gil, mais pas que. Et t'en es pas à ton premier coup d'essai avec un concert sur un sommet, puisque je crois que t'avais déjà réalisé une prouesse artistique et physique en gravissant le plus haut sommet des Pyrénées françaises, le Vignemale, avec un piano sur le dos, et ça t'avait amené à donner un concert à quasiment 3300 mètres.
C'est ça, exactement. J'avais fait ça en décembre 2023 avec mon petit cousin Alexandre Bourgoin, avec qui on est partis tous les deux. On est tous les deux passionnés d'alpinisme. Et alors c'était un petit peu différent, parce qu'évidemment c'est moins haut que le Kilimandjaro, mais
ouais, 3300 c'est déjà pas mal, hein. Ouais.
C'est pas, mais c'est surtout que c'est de l'alpinisme, c'est-à-dire ouais. Qu'on avait les doubles piolets, on avait des crampons pour monter là-haut. Et voilà, c'était moi c'était un moment unique de jouer sur le toit des Pyrénées.
Ça y est, on est parti, direction l'aéroport international de Kilimandjaro. L'arrivée se fait. Ça prend, à l'arrivée en Tanzanie, pas mal de temps parce qu'il y a des formalités douanières qui prennent du temps. Il y a l'achat du visa sur place, la récupération des valises également. Et puis les contrôles qui sont minutieux. Heureusement, le grand cœur dont on parlait tout à l'heure et le piano, ça amuse plutôt les douaniers qui sont sur place.
Ah oui, c'était incroyable cette arrivée au Kilimandjaro Airport, parce que évidemment on avait fait quoi, 12-13 heures d'avion, on est passé par Amsterdam, on a fait une escale là-bas, et quand on est arrivé, alors avec tout notre matériel, il faut s'imaginer qu'on arrive, on est 4 avec, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait 8 bagages en soute et 4 bagages sur nous, donc c'était... Enfin voilà, les gens se demandaient ce qui se passait. Et surtout, on avait ce cœur qui était dans un carton énorme. Et évidemment, tous nos bagages sonnaient à chaque fois qu'on mettait un bagage. Ben, entre les batteries, entre les ordinateurs, entre le piano, entre l'électronique qu'il y avait partout, ça sonnait, ça passait. Voilà, tous nos bagages sonnaient. Et à chaque fois, ils nous demandaient, bon, mais qu'est-ce que c'est ? On disait, ben, ça, c'est un piano. Un piano, d'accord. C'était assez curieux. Et ça, c'est quoi ? Et ben, ça, c'est un cœur. Alors, il a fallu leur expliquer que voilà, c'était le cœur de mécénat, c'était le cœur de l'association. Et ça les a fait sourire. Et puis, je dirais, ils nous ont tout de suite. Ils sont pris au jeu. Ça les a amusés, quoi.
C'est parti donc avec le voyage qui démarre et transport de 2 heures en bus depuis l'hôtel dans lequel vous étiez jusqu'à la porte de Rongaï qui est à quasiment 2000 mètres d'altitude pour l'ascension du Kilimandjaro qui se fera par la route Rongaï parce qu'il y a vraiment plusieurs manières hein, de faire l'ascension du Kilimandjaro et vous choisissez le nord.
Exactement. Alors ça a été toute une question qu'on s'est posée en amont parce que l'idée de ce projet c'était d'être de prendre le temps aussi d'être entre nous de pouvoir réfléchir moi, de pouvoir composer, de sortir mon piano, d'être inspiré par des paysages et on voulait pas prendre la voie je dirais Coca-Cola, celle qui est la plus utilisée, on voulait vraiment être entre nous. Et donc on a, en parlant avec le guide, il nous a proposé cette route en nous disant que c'était exactement celle-là qu'il nous fallait, qui était un peu plus escarpée, avec beaucoup plus de paysages différents, était un peu plus difficile. Mais bon, ça nous a de suite motivés et puis on s'est dit c'est celle-là qu'il nous faut.
Et c'est une route qui va offrir une ascension plutôt progressive avec des paysages qui varient. Il y a des terres agricoles que vous allez traverser. Il y a un désert alpin. Il y a un sommet glacé, bien sûr. C'est ça dont vous aviez envie avant de partir. Alors, est-ce que toi, tu t'es préparé, je parle physiquement, pour cette ascension du Kilimandjaro ? Et si oui, ça a pris combien de temps, cette préparation physique ?
Alors, bon, je me suis pas préparé spécialement pour le Kilimandjaro, mais je suis à un entraînement régulier depuis quelques années, parce que voilà, j'ai quand même l'habitude de faire de la randonnée, de la haute montagne, de l'alpinisme. Alors, je cours beaucoup, je fais beaucoup d'escalade, je fais beaucoup de calisthénique aussi. Et voilà, j'essaie d'entretenir mon corps et à toutes les ascensions que je vais vouloir faire. Donc voilà, le sport fait partie de ma vie et je ne me suis pas entraîné spécialement pour ce Kilimandjaro.
Quelque chose qui est très important lorsqu'on va démarrer l'ascension du Kilimandjaro, c'est les sacs, le poids des sacs. Et la pesée des sacs se fait pour ce premier jour. Il y a combien dans le sac ?
Alors, dans nos sacs à nous, c'est un peu particulier parce que nous, on a décidé de porter notre matériel. Moi, j'ai porté mon piano sur le dos. Orso a porté le cœur de mécénat sur son dos. On avait toutes les caméras. Donc, on avait entre 16 et 18 kilos chacun.
Waouh ! On a pesé les sacs. Il y a déjà un petit moment de partage avec des enfants qui sont là. Il y a des chansons qui commencent à se faire entendre. Il y a de la musique qui commence à être partagée entre vous.
Exactement, c'était incroyable. Déjà, le fait d'arriver à l'hôtel, on a eu le droit à un chant de tous les porteurs, de tous les guides, de toute l'équipe qui allait venir avec nous. Et c'est quelque chose qui a été régulier pendant toute l'ascension. C'est-à-dire que dans le bus, ça chantait. Dès le départ, ça chantait. Pendant l'ascension, ça chantait tout le temps. Alors évidemment, pour moi, musicien et compositeur, c'est quelque chose qui faisait déjà sens avec cette expédition et qui me touchait particulièrement parce que j'emmagasinais toutes ces mélodies et puis j'avais envie de jouer avec eux et puis on se retrouvait à la fin de la journée à jouer, à faire de la musique ensemble.
La première randonnée va pas durer très longtemps, on est sur une randonnée de 4 heures environ jusqu'au camp Simba qui est à 2600 mètres, donc il y aura 600 mètres de dénivelé, une ascension qui débute à travers des champs agricoles, des forêts de pins également, et on a une première vue sur un joli sommet, le sommet Kibo.
Exactement, exactement. Et puis on a eu la chance ce jour-là d'avoir une météo incroyable et de commencer cette ascension avec que du beau autour de nous et pas beaucoup de difficultés, je dirais.
Alors elle a bien commencé cette journée côté météo, elle va un peu moins bien terminer puisqu'il y a quand même une pluie battante qui va vous accompagner sur les derniers instants de cette randonnée.
Exactement. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est revenu souvent durant cette expédition, c'est-à-dire qu'on a eu... On a eu la montagne avec nous, le Kilimandjaro avec nous, la météo avec nous. C'est-à-dire que quand on marchait, on a toujours eu du, on n'a jamais eu de la pluie. On a toujours eu du beau temps, beaucoup de soleil. Et ce premier jour, en fait, au moment où on est arrivé, la pluie a commencé à tomber et la météo a commencé à changer. Et on a pris ça comme un message de grâce et de respect parce que ce que nous disait le guide un petit peu. Tous les jours, tous les soirs, il faisait le point et nous disait que voilà, il faut respecter le Kilimandjaro, il faut respecter la montagne et la montagne nous respectera. Et je dirais c'est vraiment ça qui a eu lieu pendant toute cette expédition.
Vous êtes un petit peu déjà fatigué en arrivant enfin au camp. La nuit démarre et ça sera une nuit marquée par l'humidité. Hein, il continue à pleuvoir. Et toi, Marco, tu dors avec ton piano directement ?
Exactement, j'ai mon piano avec moi, à côté de mon sac de couchage. Certaines nuits, je l'avais dans mon sac de couchage parce que le problème, c'est que c'est on monte très haut. La météo change très vite tous les jours. C'est très aléatoire et le problème c'est que le piano, il y a beaucoup d'éléments électroniques à l'intérieur, il fonctionne à pile et l'idée c'était quand même d'arriver au sommet, de pouvoir jouer au sommet avec les piles, avec la batterie et du coup il y avait cette peur tous les jours que le piano gèle, que les circuits s'abîment et donc voilà, j'étais un petit peu parano et je dormais avec mon matériel, mais j'étais pas le seul hein, parce que Vincent pareil avec ses caméras, il dormait avec toutes les caméras dans le sac de couchage. Bon, c'était tout un état d'esprit.
Alors il faut se roder parce que là tout le monde est arrivé la veille dans le camp et puis les affaires ont été un petit peu disséminées dans tout le camp et du coup il y en a déjà qui ont perdu des affaires.
Oui, c'était les petites anecdotes drôles du matin parce qu'évidemment on arrivait parce qu'il y avait toute une équipe avec nous, donc il y avait les porteurs qui installaient les tentes, nous on arrivait, on installait nos duvets, nos matelas et puis on avait beaucoup, beaucoup de matériel et on était quatre et je dirais on n'était pas tous aussi bien organisés les uns que les autres. Je cite pas de nom, mais c'était voilà, entre les affaires des uns, des autres, les tentes, il arrivait qu'on ne savait plus où était le matériel.
Allez, c'est parti, deuxième jour, avec une randonnée de 7 heures qui vous attend jusqu'au camp de la seconde grotte. On va aller jusqu'à 3450 mètres d'altitude. On continue à grimper, donc, un sentier qui monte progressivement. Là, on sera à travers la zone de la Lande, avec une vue magnifique sur le sommet du Kilimandjaro.
Oui, je me souviens de cette vue, c'était quelque chose qui m'a marqué déjà tout le pendant toute l'expédition. D'avoir ce Kilimandjaro omniprésent en face de nous, sur les côtés, et d'avoir de se rendre compte de l'immensité du sommet, de l'immensité de ce qui nous entoure, et de se dire que dans quelques jours on sera en haut.
La journée se déroule principalement en forêt, le temps reste couvert un petit peu comme celui de la veille, et y a ce Kilimandjaro qui est là, alors que vous voyez pas toujours parce qu'il y a quand même des nuages qui bloquent un petit peu la vision régulièrement.
Oui, c'était un petit peu le jeu qu'on avait pendant cette ascension. C'est-à-dire que on le voyait, il se cachait, on le revoyait. Et puis dans la journée, il y avait cette alternance de nuages, pas de nuages, de grand soleil. Et pour moi, c'était quelque chose d'hyper inspirant parce que du coup, j'emmagasinais beaucoup de paysages différents.
Il y a le drone qui va être sorti pour cette première journée. Vous le surnommez la girafe. Pourquoi la girafe déjà ? Et est-ce que ça a été dur d'utiliser ce drone ? Parce que je crois savoir que sur le Kilimandjaro, ce n'est pas forcément possible logiquement d'utiliser un drone.
Alors exactement, il y a eu, des régulations sur le Kilimandjaro. Et donc c'est pas très bien vu d'avoir un drone durant cette ascension. Et nous on avait besoin d'avoir des images parce que pour le documentaire qu'on est en train de monter, c'était vraiment quelque chose essentiel d'avoir ces images grandioses pour montrer l'immensité de ce paysage. Et dès le premier jour, du coup on avait parlé de ce projet au guide, à notre guide Martin. On a dû donner un nom de code et je sais plus comment c'est arrivé, mais on a appelé ça la girafe. Et c'était très rigolo parce que pendant toute cette ascension, donc il y avait qu'un petit groupe qui était au courant. Donc il y avait quatre guides qui étaient au courant de ce projet-là, et ils ont mis tout en œuvre pour qu'on puisse faire voler le drone dans des endroits bien précis. Et donc du coup, pour pas que ça soit dévoilé, pour pas que on nous balance ou pas qu'il y ait de fuite, et bien on appelait ça la girafe. Et à chaque fois on était là, où est la girafe, allez c'est parti, on a 10 minutes pour sortir la girafe. Ça faisait nom de code, ça faisait un peu James Bond, c'était ça donnait un côté encore plus aventurier à cette expédition.
On arrive au jour 3. Le matin a commencé avec une énorme chance, une chance incroyable. Ça arrive pas tous les jours. Votre guide vous signale la présence d'une antilope sur place.
C'était complètement fou. C'était, je pense, c'était un des moments les plus marquants de cette ascension. C'est-à-dire que je me rappelle très bien, on était en train de marcher, donc ça faisait déjà peut-être même pas une heure qu'on marchait. Et puis, oui, il faut dire que il y a cette règle sur le Kilimandjaro. Il y a une règle. C'est le pôle épaulé, c'est-à-dire qu'il faut marcher vraiment, vraiment très doucement, pas après pas, et ne jamais dépasser le guide, et dans ce respect de ce rythme qui est imposé par ceux qui savent, donc les guides. Et là, c'était la première fois qu'au bout d'une heure, ils nous disent d'accélérer, et le groupe s'accélère, et puis on commence à trottiner. Alors le piano sur le dos, le cœur sur le dos, les caméras sur le dos, et on ne sait pas ce qui se passe. On s'est dit, alors est-ce qu'on s'est fait attraper, est-ce qu'on nous a balancé, est-ce qu'on nous arrête, est-ce qu'on va nous arrêter. On ne savait pas trop ce qui allait se passer. Et en fait, à un moment, on court, et là, on s'arrête. Et là, on nous dit « Regardez, regardez, regardez ». Et là, on voit une antilope. Et le guide nous dit que ça fait 10 ans qu'il n'en a pas vu, et que c'est un moment extrêmement rare, que encore une fois, il nous dit, c'est un cadeau du Kilimandjaro, c'est un cadeau de la montagne. Et on a passé peut-être 10 minutes à observer cette antilope, on a pu prendre quelques photos, et il y a eu un silence qui s'est créé, c'était incroyable.
Dans cette nature, vous en profitez toujours pour sortir un petit peu les instruments. Il y a toujours le moment où toi, tu te mets à composer, à jouer sur ton piano, Marco.
Et exactement. Et là, c'était après la vue de cette antilope. Évidemment, j'avais envie de sortir mon piano. J'avais envie de jouer, de m'exprimer, parce que c'est un moment extrêmement fort. Voir une antilope comme ça, de si près, en pleine nature, c'est juste sublime. Et j'ai sorti le piano, on a sorti la girafe, du coup on a sorti les caméras, et puis on a commencé à prendre quelques vidéos, et moi je me suis exprimé à travers ma musique.
La randonnée continue, et là vous arrivez enfin au camp de la troisième grotte. Nous sommes désormais à 3900 mètres d'altitude. La nuit se passe. Alors, pour chaque début de soirée, quand on est au camp, il y a l'installation au camp, mais il y a aussi le test du taux d'oxygène dans le sang pour être sûr que tout va bien.
C'est ça, parce que il faut savoir que là on est à 3900, donc on commence à être haut, hein. On commence à être très haut, c'est-à-dire que il y a quelque chose qui nous faisait un petit peu peur au début. C'est le mal des montagnes. En plus, moi j'ai l'habitude de monter en montagne, mais dans les Pyrénées c'est un petit peu moins haut quand même. Et c'est quand même quelque chose qu'on commence à ressentir à partir de 3000. Alors évidemment, 3900, on est bien au-dessus, et on peut avoir les premiers symptômes qui apparaissent, des maux de tête, des maux de ventre, des envies de vomir. Et tous les soirs, le guide vient faire un débriefing, et il nous prend l'oxygène pour savoir comment notre corps réagit à l'altitude. Et nous, on a eu beaucoup de chance, parce que tous les quatre, on avait un taux d'oxygène vraiment correct. On était à 97 ou 95, entre 95 et 97. Donc, on supportait très bien l'altitude. Et c'est quelque chose qui nous a beaucoup motivés, parce que ça nous enlevait des frayeurs, de se dire que potentiellement, on peut arriver au sommet.
La nuit se passe tranquillement et la quatrième journée va pouvoir démarrer. Une randonnée de 4-5 heures vous attend pour cette nouvelle journée jusqu'au Kibo Out.
C'est ça. Alors il faut dire aussi que 4-5 heures, c'est ce qu'on faisait aussi au début, sauf qu'avec l'altitude et l'altitude où on est, marcher 4-5 heures, ça devient de plus en plus difficile et les sacs sont de plus en plus lourds et on est de plus en plus fatigué. Donc ça commence à nous coûter, à devenir un vrai effort de marcher, de réfléchir.
Cette journée, elle a été difficile pour toi, elle a été difficile pour tout le monde. Il y a un petit peu de tension qui est surtout due à la fatigue, mais pour autant, à la fin de la journée, toi, tu t'installes tranquillement avec ton piano et tu commences à répéter ton morceau.
C'est ça. Alors, moi, je pense pas que voilà, c'est pas des grosses tensions, mais c'était des petites tensions liées à la fatigue. Mais bon, il y a toujours eu une très très bonne ambiance pendant cette expédition, et c'est ça, moi c'est quelque chose que je retiens énormément, qui faisait tellement chaud au cœur de se dire que ben en fait voilà, même dans la difficulté, on arrivait tous à passer outre, passer au-dessus. Et puis, il y avait toujours ce moment-là, où, à la fin de la journée, où je sortais mon piano et on partait. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller se reposer, comme le guide nous demandait de faire, ben, nous, on partait, trouver un petit coin, on sortait le piano, on trouvait des beaux paysages. Et puis moi, je jouais, je composais. Et puis Cédric et Vincent prenaient des vidéos, des photos. Il y avait vraiment cet amour et ce respect du lieu où on était. Et on était comme des enfants, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas aller dans la tente et dormir. Il fallait absolument qu'on profite un maximum du coucher du soleil, du lever du soleil, de tout ce qui se passait autour de nous.
On sait que la journée qui arrive, le lendemain, s'annonce comme le test ultime. L'adrénaline commence à monter parce que c'est une grosse journée qui nous emmènera jusqu'au sommet à 5895 mètres. Alors on a besoin de se détendre, on a besoin de se retrouver et toute l'ambiance va être dans une tente avec la chaleur humaine et la chaleur également de la musique.
C'est ça, c'est le dernier soir avant le sommet. Il y a une espèce d'énergie très particulière qui se dégage. On est tous les quatre dans la tente où on attend le repas pour manger. Il y a aussi une règle importante, c'est de beaucoup manger, beaucoup boire. Et on attend que Martin, le guide, vienne nous donner des conseils pour le lendemain. Et alors on est tous un petit peu... je dirais pas stressé, mais on est tous avec ce même objectif de se dire que voilà, demain, ben l'objectif sera atteint de monter là-haut, un de nos rêves sera atteint, et puis l'objectif 6000 sera lancé. Donc il y a quand même voilà, une espèce de pression qui commence à se peser, en se disant que là on est à 4000, on était à 4900, donc on est plus haut que le Mont Blanc. Et on attend, moi je sors le piano, je joue, je commence à voir le morceau que j'ai envie de jouer là-haut, qui est en train de prendre vie, qui est en train de naître. Et je me rappelle voilà, le jouer à mes camarades pour leur demander ce qu'ils en pensent, et tous les soirs c'est ce que je faisais. Et puis on attend Martin, et il arrive. Et là, il nous dit, il nous fait un discours qui est absolument magnifique. On l'a filmé, on l'a filmé sur nos téléphones, sur les caméras. Un discours de guerrier, je dirais. Un discours en nous disant, voilà, je suis venu avec les gens qui vont venir avec vous en haut du sommet. Il y a ce respect qui est omniprésent pour le Kilimandjaro, pour la montagne, pour leur montagne, parce que c'est quand même une montagne sacrée, c'est un volcan. Il y a quelque chose de très spirituel dans leur discours, dans ce qu'on peut ressentir, dans notre énergie. Ouais, en parlant, j'en ai un petit peu des frissons, parce que c'est vraiment cet aboutissement de se dire que tous ces gens-là qui vont monter avec nous, avec cet objectif, notre objectif, et ça, c'était quelque chose qui était magnifique, et j'en ai eu les larmes aux yeux le lendemain en montant. C'est-à-dire que ce projet qui était à la base monter le cœur de Mécénat, monter le piano en haut du Kilimandjaro, c'était devenu notre projet, c'était devenu le projet de toute l'expédition, de tous ces guides, de tous ces porteurs qui n'avaient pas forcément connaissance de cette association, qui n'avaient pas pas forcément, qui n'est pas touché par, par cette cause. Et en fait, c'est devenu leur cause, c'est devenu notre cause, et c'est devenu ce cœur qu'on allait monter. C'était plus simplement nous qui allons monter en tant qu'aventuriers ou randonneurs. C'était vraiment cet objectif de monter ce cœur en haut du Kilimandjaro. Martin, lors de son discours, voilà, nous disait que c'était demain, ça allait être le jour J, ça allait être le moment où on allait faire rayonner le cœur de mécénat en haut du sommet de l'Afrique, sur le plus haut sommet africain. Et c'était quelque chose d'extrêmement touchant de voir tous ces gens qui... je me rappelle le silence. Toute l'équipe, il y avait un silence très lourd. On écoutait les mots de Martin qui nous rappelait quand même que c'était une montagne dangereuse, que c'était compliqué, que demain il allait falloir se surpasser, qu'on aurait envie de pleurer, mais qu'on aurait des raisons de pleurer, qu'on aura envie d'abandonner, que ça allait être très difficile, que l'air allait nous manquer, plus on allait monter, plus l'air allait nous manquer, qu'on risquait d'avoir mal à la tête, mal au ventre, et qu'il fallait continuer, qu'il fallait pas s'arrêter, qu'à partir de demain, tout allait être beaucoup plus contrôlé, c'est-à-dire que plus de pause. Les pauses, c'était quand ils décidaient, c'était simplement pour boire à certains endroits, qu'il y avait un rythme à respecter, qu'on n'était plus tout seul, qu'on était un groupe, et que si on voulait arriver à monter ce cœur tout en haut, il fallait être encore plus soudé. Et vous savez, tous les soirs, Martin faisait des... il nous rappelait un petit peu ce qui s'était passé dans la journée, ses observations. Et c'est quelque chose qu'il a relevé dès le début. Il trouvait qu'on était un groupe, tous les quatre, très soudés, qu'il y avait une très bonne ambiance entre nous et avec les porteurs, avec son équipe. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup touché aussi. Et il était très fier et honoré de monter avec nous et d'être le chef de cette expédition pour faire briller les couleurs de mécénat.
Le cinquième jour est enfin là, un jour très attendu par l'ensemble de l'équipe et par toi, Marco. Il va se passer quoi dans cette cinquième journée ?
Alors cette cinquième journée, elle est à la fois très dure et elle est à la fois magique. Et ça a commencé à 3h du matin, donc on avait décidé de partir... de commencer à marcher à 4 heures, c'était vraiment l'objectif de cette journée. Ça varie en fonction des guides et des expéditions. Je sais qu'il y en a beaucoup qui partent à minuit. Nous, le guide avait décidé de partir un petit peu plus tard pour la bonne raison que, en fait, pour réaliser au mieux notre projet de jouer en haut et d'avoir personne. Il fallait partir un petit peu plus tard. Il avait pris cette décision en fonction aussi de notre niveau, de la façon dont on avançait. Puis on était tous les quatre quand même assez sportifs, même très sportifs. Donc voilà, c'était pas un problème de marcher un petit peu plus vite. C'était pas un souci. Donc on avait pris cette décision de partir à 4 heures du matin. Donc réveil à 3 heures. Je me rappelle pareil ce silence. On est dans la nuit, il fait très froid. Là, on a tous trois ou quatre couches sur nous, des doubles pantalons, des surpantalons, double paire de chaussettes. On commence à enfiler les chaussures d'alpinisme, des grosses chaussures. Et il fait très froid. Là, il doit faire, je pense, moins 15, moins 20. On a les doubles gants. Et puis, tous nos sacs sont prêts parce qu'on les a fait la veille. On fait un dernier checking de tout. Et puis... évidemment, il y a ce rituel avant de partir, ce chant que vont nous offrir toute notre équipe, les guides, les porteurs. Et on partage ce chant tous ensemble parce que c'est aussi devenu notre chant, c'est le chant de cette expédition. On est complètement imprégné par l'ambiance et l'atmosphère de cette ascension. Et on chante avant de partir et puis... à partir de ce moment-là, il n'y a plus de bruit, et puis on marche dans la nuit, et on sent l'altitude, et je me rappelle arriver à 5000 mètres, on sent que ça commence à être de plus en plus difficile, qui fait que le jour, il n'y a toujours pas de rayon de soleil, on est toujours dans la nuit, et ça monte vraiment, vraiment, c'est vraiment haut et difficile. et puis à 5200. Et moi, je commence à avoir mal à la tête. Je commence à avoir la tête qui tourne. Je commence à avoir envie de vomir. Et donc, je le dis au guide. Et puis, je continue parce que je me dis, voilà, j'ai cet objectif. Je vais continuer. Je veux continuer. Je veux monter. Et là, ça débute un combat contre moi-même. Et je pense que c'est un petit peu ça qui est arrivé pour chacun d'entre nous. C'était vraiment une lutte contre nous-mêmes, la lutte de nous dire on peut le faire, on va le faire, on est capable de le faire, et c'est de se dire maintenant pourquoi on fait ça. Et pendant toute l'ascension jusqu'en haut du sommet, ça a été ça, parce que ça a été de la souffrance pendant toute cette ascension, parce que à chaque fois plus on montait, plus c'était difficile. Et puis même psychologiquement, il y avait cette idée de se dire que plus on monte, plus le mal des montagnes va être en nous, va continuer, va se développer en nous. Donc c'est-à-dire que ces maux de tête que j'ai à partir de 6200, ils vont être de pire en pire jusqu'au sommet. Et toute la lutte, elle est de se dire comment je vais passer au-delà de ça, comment je vais arriver à me dire que voilà, je vais pas abandonner, je vais pas faire demi-tour, je vais continuer.
On arrive enfin au sommet du Kilimandjaro. Ça y est, on y est. Là, on est au but qu'on s'était fixé. L'arrivée, elle se fait dans quelles conditions, Marco? Et puis, surtout, à quel moment tu vas sortir ton piano pour commencer un petit peu à jouer quelques notes?
Alors, cette arrivée, elle se fait de façon, pareil, très spéciale. Mais tout ce qui se passe dans cette ascension est complètement fou, complètement hors du temps, hors du monde. C'est vraiment un moment de vie qui, je pense, qui nous a tous marqués pour beaucoup de raisons, que ce soit personnel, que ce soit pour le projet qu'on était en train de faire. Et je me rappelle quand on était quasiment au sommet, moi j'ai beaucoup pleuré en arrivant vers ce sommet, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions de se dire que ce projet, on est en train de le concrétiser, qu'on est quand même, on réalise qu'on est sur le toit de l'Afrique, on est à 5895 mètres, on réalise que on l'a fait, on réalise que c'est beau, que ce projet est beau, qu'on fait ça pour les enfants, on fait ça pour sauver des vies. On se rend compte que on est tous ensemble. Moi, je me rappelle voir Cédric, pareil, qui était en larmes. Orso, qui était extrêmement touché par ce qu'on était en train de faire. Et puis, c'était... je dirais, c'est là que le challenge commence, quand on arrive en haut, parce que... comme pourrait faire d'autres expéditions, c'est-à-dire que les autres arrivent en haut et profitent de la vue, nous, l'objectif, c'était d'arriver en haut et de sortir le piano, installer le chœur, et puis de jouer. Et ça demandait une énergie énorme. Je pensais pas y arriver, parce que quand j'arrive à 5895, l'oxygène manque terriblement. Et on est fatigué de faire le moindre pas. On est fatigué de manger. On est fatigué de boire. C'est une sensation que j'avais jamais ressentie avant. C'est-à-dire que tout nous coûte, tout est compliqué. Alors évidemment, jouer du piano, c'est là que je pense que toutes les années que j'ai passées à travailler mon piano, à composer, on ressurgit, et c'est là que la magie a opéré. C'est-à-dire que mes doigts, c'était comme une évidence. On a sorti le piano, tous les guides m'ont aidé à le sortir. Il y avait toute cette communauté autour de moi qui m'aidait à réaliser ce projet. On a installé le chœur, et puis là, j'ai commencé à jouer. Et c'était un moment gravé dans mon cœur à vie. On avait la météo pour nous. On avait un soleil sublime. Il faisait froid, mais ça restait soutenable, et avec ce soleil qui avec tous ces rayons de soleil, on était bien. Et puis on a eu la chance, et ça c'était un moment, enfin c'était une chance énorme. On a pu rester une heure et demie en haut du sommet, ce qui est complètement fou, parce que on était tous alors évidemment tous on avait tous un petit peu ce mal des montagnes, mais on était tous pas mourants, donc on pouvait rester, et la météo était parfaite. Et puis j'ai pu composer, j'ai pu m'imprégner. On a déposé le cœur de mécénat, on a déposé la photo du docteur Francine Leca, la maman d'Orso, qui est à l'origine de mécénat chirurgie cardiaque. C'est elle qui a fondé cette association. Et il y a eu tout ce moment de recueillement autour de ce projet, autour de ce cœur. Et voilà, c'est quelque chose, je dirais, il y a pas de mots pour décrire ça. Et j'ai eu la chance d'avoir mon piano pour m'exprimer.
Alors, il y aura un documentaire qui va retracer cet exploit. Il est attendu pour septembre 2025. Il devrait toucher des milliers de cœurs et permettre à cette association que tu as citée, Mécénat Chirurgie Cardiaque, de recruter des familles d'accueil, mais aussi des bénévoles et puis des donateurs. Et l'objectif à atteindre, c'est 6000 enfants sauvés. L'objectif du 6000e enfant est très important pour les 30 ans de cette association. 30 ans qui vont se fêter en 2026. Qu'est-ce qu'on va y voir dans ce documentaire ?
Alors, dans ce documentaire, on est en train de travailler dessus, de travailler sur la direction sur laquelle on veut le mener. Mais on a cette idée et ce désir de montrer ce côté humain, ce côté artistique, que au final c'est pas, on veut pas montrer un documentaire de montrer un exploit, parce que je pense que c'est pas un exploit ce qu'on a fait, mais c'est plus un symbole, et c'est quelque chose qu'on veut faire, où on veut marquer les gens. C'est à dire que on veut montrer que à travers ce piano, moi j'écris de la musique, j'écris à travers les rencontres, j'écris avec mon cœur, j'écris avec cette rencontre avec Orso, avec Mécénat, avec tout le travail incroyable que font tous les chirurgiens, tous les bénévoles, tous les familles d'accueil, tous les gens qui sont dans cette chaîne de mécénat chirurgie cardiaque. Et c'est un petit peu ça qu'on a envie de montrer dans ce documentaire. C'est un message de vie, c'est un message de mettre un gros coup de projecteur sur cette association et motiver les gens, inciter les gens à donner, à participer à leur manière. Il y a beaucoup de façons de participer. Ça peut être avec des dons, mais ça peut être aussi en devenant famille d'accueil, ça peut être en participant. On peut toujours faire quelque chose, et moi j'incite énormément les gens à appeler, à envoyer des mails, à se renseigner. Et puis vous savez, ce qui était incroyable pendant cette expédition, c'est qu'on a lancé un appel à dons, un petit peu comment dire, c'est-à-dire que évidemment il y a beaucoup de gens qui voulaient venir avec nous, et il y a beaucoup de gens qui ne pouvaient pas venir. Et puis on a fait cet appel, on a vendu des mètres à 20 €, hein, des mètres symboliques, et ça a bien marché. C'est-à-dire que les gens ont répondu présent, les gens soutiennent, et ça c'est quelque chose qui a été trop beau pendant cette ascension, c'est de voir qu'on était toute une communauté, qu'on était tous là pour la même cause, pour sauver le 6000e enfant. Et cet objectif qu'on a lancé là-haut, c'est que le début. Et maintenant, il faut continuer.
Et on va évidemment vous laisser tous les liens sur la description de cet épisode des Aventuriers. Lien vers objectif6000.org. Merci infiniment Marco Point d'avoir été ici notre invité aujourd'hui dans les Aventuriers. Et puis à très bientôt pour d'autres aventures, et surtout à très bientôt avec ce documentaire. Et la musique que tu as composée, elle est évidemment à retrouver sur les plateformes, j'imagine.
Exactement, vous pouvez la retrouver sur toutes les plateformes.
Merci Marco, à bientôt.
À bientôt.
Les Aventuriers. Un podcast de La Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? Contact @lafabriqueaudio.com.
lafabriqueaudio.com.